Bonjour, aujourd'hui dans notre zone libre,
Phare FM Haguenau, représenté par moi-même, Thierry, s'est déplacé au domicile de Sonia Rupp. Bonjour.
Bonjour Thierry.
Sonia, vous avez une très belle maison avec beaucoup de plantes et c'est un univers qui me semble très riche. Déjà quand je vous ai aperçu juste avant, vous aviez l'air en pleine forme, avec une énergie extraordinaire. Vous êtes une personne handicapée, avec un handicap lourd il me semble, et en même temps vous avez un passé, un actif d'ailleurs aussi, toujours encore, d'écrivain. Déjà, j'aimerais entamer le sujet par rapport au handicap. Quel est votre type de handicap et comment vous l'avez vécu?
Alors, je suis atteinte depuis l'âge de 16 ans environ d'une maladie neuromusculaire dégénérative qui se traduit par une aggravation assez régulière de l'état de santé. Cela fait que y a des fonctions qui s'arrêtent, hein, donc je ne marche plus, je suis en fauteuil électrique au fil des années. Je suis dépendante des gens autour de moi à 99%. Et je suis sous oxygène et je crois que c'est un petit peu déjà le début, quoi.
Merci beaucoup. Vous êtes aussi écrivain. Vous avez d'ailleurs obtenu un exemplaire de votre livre « Un petit bout de chemin » par Sonia Rupp aux éditions Farel. Donc il s'agit de comprendre et d'accompagner la personne handicapée. Alors j'ai pas eu le temps et ni pris le temps de tout lire, mais l'extrait que j'ai vu, je trouve que vous avez un vocabulaire riche, raffiné, et c'est quelque chose qui se lit facilement. Comment est-ce qu'il vous est venu l'idée de pondre, si je puis dire, ce petit guide pour personnes en fait autant handicapées que personnes valides?
Alors c'est un souhait de ma part et une longue réflexion, parce que atteinte de cette maladie, d'année en année, j'ai vu mon cas s'aggraver avec les amis autour qui sont désemparés, les collègues de travail qui vous abandonnent, la famille, les frères et sœurs. Et j'ai pas voulu que mes frères et sœurs souffrent de cet handicap. Et donc j'ai voulu expliquer au monde qu'il faut accompagner et non pas assister, tout simplement, ou prendre de nos mains ce qu'on peut encore faire tout seul. Donc c'était vraiment un souhait et c'était pas facile, parce qu'on sait forcément qu'on va blesser des gens qui ont voulu bien faire, mais je crois qu'il faut partir dans l'idée que les gens peuvent apprendre quelque chose de cette situation et mieux accompagner encore les leurs. Et c'était mon but, c'était vraiment mon souhait.
Dans votre livre, vous parlez aussi de foi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé et dans quel sens?
C'est sûr que la foi au quotidien est pour moi une très grande aide. Mais c'est pas n'importe quelle foi, c'est pas parce que j'ai une religion, c'est pas parce que j'ai une croyance, parce que j'ai une éducation croyante, chrétienne. Moi, je crois en un Dieu vraiment vivant. Et si je peux le dire ici haut et fort, c'est parce que je le vis au quotidien. Et j'étais déjà croyante avant de tomber malade. Donc c'est vrai qu'on se pose la question, mais c'est pas juste. Normalement, quand tu es croyant, quand tu es gentil, quand tu fais rien au monde, tu devrais pas mériter ça. D'après les religions, c'est pas pour toi, quoi. Mais bon, là, c'est pas du tout un mérite. Je suis vraiment... J'ose le dire, cette maladie est aussi une grâce. Mais il faut un long travail.
Comment est-ce qu'on... On arrive avec un tel handicap lourd, mais je parle aussi peut-être d'une maladie en général. Comment est-ce qu'on arrive justement à en subir les conséquences, le poids, et en même temps à se dire justement que c'est une grâce?
Je pense que c'est une histoire de maturité, c'est une histoire de, comme dit, de prière, d'acceptation aussi de l'handicap. Et puis... Il y avait un facteur très jeune que j'ai toujours mis en avant. J'ai toujours dit, mais on dit toujours « pourquoi moi ?» Mais alors, quelque part, je me dis par respect et tout humblement, mais pourquoi ce serait mon voisin? Est-ce qu'il l'a plus mérité que moi? Non, c'est pas juste. La maladie est un accident de la nature et n'a rien à voir avec une punition de Dieu, quoi.
Vous m'avez parlé aussi de nombreux livres que vous avez écrits. Est-ce que ces livres, j'imagine qu'ils ont une histoire particulière, est-ce que vous avez différentes classifications par rapport à ces livres que vous avez écrits?
Oui, alors il y a d'abord le tout premier qui est un petit bout de chemin qui pour moi était très important parce que j'ai voulu montrer et aider les gens à nous accompagner afin que justement ils ne se culpabilisent pas de leurs erreurs ou de leurs faux pas ou voilà. Et donc j'ai quand même voulu donner une suite et cette suite c'était il y a quelques années suite à une histoire toute bête. Nous avions 2 heures de tierce personne par jour pour m'accompagner et donc c'est très très peu par rapport à l'handicap très lourd. Et au bout de quelques années, il y a eu, malgré la foi, une saturation de cet état de vie, quoi. Parce que c'était une vie bien indigne, où les week-ends, je restais au lit pour manger des bretzels et de l'eau, tout simplement parce que les gens sont trop occupés et que ma famille, je ne pouvais pas la mobiliser dans un handicap aussi lourd, quoi. Et donc, un ras-le-bol général a fait que, et là, je vois vraiment le plan de Dieu, je vois vraiment le chemin que Dieu a tracé. Même si d'un côté, on m'a dit, même de la part des frères et sœurs dans la foi, ils m'ont dit, mais on n'a pas le droit de dire qu'on veut se donner la mort lorsqu'on a la foi, parce que c'est pratiquement un interdit dans nos milieux. Et là, j'ai toujours dit, bah, je préfère que le Seigneur me tire les oreilles quand j'arrive au ciel pour me dire, eh oh, qu'est-ce que t'as raconté comme bobard là en bas, t'as voulu te prendre la vie et tout ça? Plutôt que d'arriver au ciel et le Seigneur me dit, mais toi, tu savais dans quelle galère vivaient les personnes handicapées, quelle vie ils avaient à domicile ou même dans des centres, une vie indigne dont on parle encore aujourd'hui. Et pour moi, c'était très important de faire cette manifestation auprès du gouvernement en 2005, où j'ai menacé notre gouvernement français de me donner la mort plutôt que de continuer à vivre dans cet état de physique tel que je devais le vivre, le subir, la subir, la vie.
Justement, je pense qu'on atterrit sur un axe intéressant et important aussi, c'est le côté intégration par rapport à votre handicap, par rapport à votre foi. Comment est-ce que vous avez pu vous intégrer, si je puis dire, dans la société, ou comment est-ce que vous le vivez au quotidien?
Alors pour moi, c'était m'intégrer en toute douceur. Je fais partie des associations et j'ai jamais voulu mettre les pieds en avant pour crier sur les trottoirs cette injustice d'avoir un handicap, de ne pas avoir l'accessibilité. Donc j'ai travaillé pendant des années et des années, notamment pour par exemple la libre circulation à Wissembourg. On a une ville quasiment complètement accessible grâce à un maire qui était très très ouvert à l'époque pour l'handicap. Et je dois dire, moi, j'ai jamais voulu venir les coudes en avant parce que je trouve que c'est pas comme ça qu'on s'intègre. Alors, c'est vrai qu'on en prend des claques, hein. Quand on est trop gentil, on en prend des claques. Mais pour le monde à l'extérieur, au bout de quelques années, je me rendais compte que j'étais vécue comme une terreur. Quelqu'un qui n'acceptait rien, quelqu'un qui fonçait la tête basse, quelqu'un qui voulait du changement. Et ce que les gens n'avaient pas compris, c'est que ce changement, je le voulais pour eux. C'est que pour toute personne ayant un handicap ou les enfants futurs avec un handicap puissent, eux, vivre une vie digne. Et c'était ça mon but. Et j'y suis arrivée, je suis heureuse, mais c'est grâce au Seigneur, parce que cette force, je n'ai pas pu la développer par moi-même, quoi.
Je me permets, j'ai juste vu un petit oiseau avec de très belles couleurs, noir, jaune, blanc, aller sur votre table, sur le balcon, et je remarque aussi pas mal de plantes. Je vois que vous avez quand même une maison qui m'a l'air bien remplie, avec une vie énergique, ne serait-ce que de vous avoir vu au premier abord en entrant dans la maison. Voilà, comment est-ce que vous arrivez justement à avoir toute cette vie dans cette maison?
Pour moi, c'était me dire au départ que, avant d'être une simple handicapée, je suis une femme, je suis une personne à part entière. Et c'est ce qui a été très mal vécu de par mon entourage, parce qu'à l'époque, quand moi j'ai développé mon handicap, il y avait très peu de maladies dégénératives qui se présentaient dans nos villages. Et donc, c'était incompréhensible que moi aussi je veuille aller au cinéma, que moi aussi je veuille sortir ou partir en vacances. Mais non, mais tu es malade, c'est comme ça, tu peux pas, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Mais ce qu'on avait oublié, c'est qu'à 20 ans, on n'a pas les mêmes demandes qu'à 50, qu'à 60, qu'à 80, et qu'on a envie de... Enfin, moi, j'ai toujours croqué la vie à pleines dents, déjà toute petite, et je continue à la croquer à pleines dents malgré toutes les claques que j'ai eues. Et je crois que c'est ça qui me donne la force. Plus les gens essayent de vous dire qu'il faut se calmer, et plus je vis, moi, et j'adore la vie. Je suis une femme hyper heureuse, je suis une femme comblée, mais j'aime le Seigneur, quoi. C'est ma base, c'est vraiment la base de ma vie, quoi.
Justement, par rapport à cet état de bonheur et heureux de comblé que vous vivez, comment D'où ça vient?
Je pense que c'est lié à ma foi. Ça, c'est la première chose. Il faut le dire, c'est la base de tout. Et puis, c'est construire petit à petit. C'est ne pas nous mettre la barre trop haute. Et puis, surtout, il y a quelque chose que je ne dis jamais, c'est que j'y arrive pas. On y arrive toujours, différemment, plus lent que les autres, mais on y arrive. Et on n'a pas besoin d'être une image pour les autres. Quand toi, tu es heureux avec toi-même, quand toi, tu aimes forcément les gens autour de toi. Et moi, j'adore les gens autour de moi, quels qu'ils sont, avec leurs différences, avec leur handicap, avec leurs trois cheveux, avec leurs pieds tordus, ça m'est complètement égal. Qu'est-ce que cette personne a comme valeur devant Dieu? Et c'est ça qui est important. C'est d'aimer l'autre comme on s'aime soi-même. Mais pour ça, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même, ça veut dire aussi accepter que ton corps dégénère, que ton corps est différent. Et il fut un temps où, je me rappelle bien, lorsque je commençais à avoir des sentiments pour l'homme, où on me disait, oui, mais tu comprends, tu ne peux pas soumettre ça à un homme, ça. Mais quoi, ça? Eh bien, cet handicap, il est trop lourd, tu ne te rends pas compte, tu es sous oxygène, tu ne peux plus marcher, tu as des problèmes de rein, tu as des problèmes de ci, de ça. Mais là aussi, je vais vous dire une chose, je vais vous raconter un secret. C'est que là aussi, le Seigneur m'a mis la puce à l'oreille et j'ai donné un beau coup de pied à la nature parce que dans l'immédiat, je vis avec un homme formidable et je vous en dirai pas plus.
C'est dommage parce que ma prochaine question portait justement sur le qu'est-ce qui vous permet justement de vivre au quotidien et de survivre est peut-être un mot un peu fort, mais pour subvenir à vos besoins, du moins, parce que je vois que vous êtes en fauteuil roulant, effectivement, vous avez dit que vous êtes sous oxygène, je vois la bouteille, c'est quand même un handicap qui me semble très lourd, et vous avez dit que c'était dégénératif, donc c'est-à-dire que ça va augmenter avec le temps. À vous de me dire.
Bon, ben, je vais quand même dévoiler mon secret alors. Hein. Alors, il y a 15 ans, exactement la même période où j'avais fait ma manifestation à Paris pour dire que je voulais mourir, il y a eu quand même un petit... quelque chose dans ma vie, et j'ai dit, Seigneur, voilà, maintenant je te mets moi aussi devant deux situations. Tu dis dans la Bible que nous demandons et nous recevons. Tu promets dans la Bible beaucoup de choses. Et moi, je te prends au sérieux. Et voilà, Seigneur, je te mets devant deux situations. La première, c'est où tu me donnes quelqu'un dans ma vie qui s'occupe de moi parce que je ne veux pas aller en milieu hospitalier et centre, ghetto, comme je les appelle. Ou alors, Seigneur, tu me laisses mourir. Parce que je suis trop jeune pour mourir, mais je suis trop malade pour vivre comme ça encore des années et des années. Et le Seigneur a fait là un miracle. Et j'ai obtenu les deux. Alors, comme dit mon copain actuel, tu as fait un deal avec ton Dieu. Oui, sachez qu'on peut faire un deal avec Dieu et que Dieu répond. La preuve, vous l'avez devant vous, c'est moi. J'ai eu, non seulement j'ai obtenu de par le gouvernement, ce qu'on appelle actuellement en France et pour toute la France, la PCH, prestation de compensation pour handicap, qui permet d'embaucher du personnel qui s'occupe de vous. Alors dans mon cas, c'est un 24 heures sur 24, des cas moins lourds, ça peut être un 12 heures, un 14 heures, toujours est-il que la vie des personnes handicapées en France a drôlement changé depuis 2005, et c'est suite à manifestation de Marcel Nuss, donc de moi aussi, Sonia Rupp, de Yannick, de Mireille, des gens qui, comme moi, on était une dizaine, sont partis à Paris pour dévoiler notre situation. Et en parallèle, quelques mois après, j'ai connu un ami qui est devenu entre-temps mon conjoint. Et c'est l'amour comme au premier jour. Ça fait 17 ans que ça dure. Et Eric est quelqu'un de formidable qui m'accompagne au quotidien de par sa présence, de par sa tendresse. Il travaille pendant la journée et c'est là où mes tierces personnes interviennent pour s'occuper de moi. Et les week-ends, nous vivons ensemble en vrai petit couple comme j'ai voulu le construire toutes ces années.
Quelque part, la foi que vous aviez au départ, même avant d'avoir cette maladie, est-ce que ce n'est pas... C'est peut-être une supposition de moi-même, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose que Dieu vous a donné pour permettre de passer par-dessus ce handicap et justement d'espérer au-delà et de traverser toutes ces épreuves ?
Pour moi, c'est ça. Pour d'autres, c'est un échappatoire. On dit oui, bon, quand on n'a plus d'espoir comme toi et qu'on sait qu'on est condamné par une maladie de mourir, eh ben forcément, on s'accroche à quelque chose. Je suis désolée de le dire, mais je ne m'accroche pas à Dieu. Parce que si je m'accrochais à Dieu, moi, je me fatiguerais. Ça, c'est sûr. Et donc la foi, effectivement, je pense que ma base d'éducation judéo-chrétienne m'a sûrement et beaucoup aidée à accepter la situation aussi, avec révolte. Hein. Il ne faut pas croire que j'ai accepté, oui, merci Seigneur, j'avoue, je... Non, pas du tout. Non, il y a eu des coups de barre, il y a eu des coups de morale, il y a eu des coups de gueule même. Et j'ai mis Dieu devant des faits accomplis. Mais Dieu n'en a pas tenu rigueur. Au contraire, je pense qu'en tant que croyants, nous avons le devoir de démarcher, nous avons le devoir de nous lever symboliquement et de montrer, parce qu'il n'est pas question que les personnes handicapées vivent dans un tel désespoir en France. Alors quand on me disait « oui, mais dans d'autres pays », mais je ne suis pas dans d'autres pays, je suis en France où tout est possible, on peut même aller sur la Lune. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas développer en France un monde du travail qui est très riche, avec des personnes de plus en plus dépendantes. Quoi.
Sur la table sur laquelle nous faisons notre interview, je vois qu'il y a d'autres ouvrages. Est-ce qu'il y en a l'un ou l'autre que vous souhaiteriez présenter courtement ?
Alors, il y a le deuxième livre donc, qui s'appelle « Un papillon blanc » qui a été édité en version malvoyant et en version normale. On ne le trouvera que chez moi à Wissembourg. C'est le livre qui raconte justement la bataille que j'ai menée donc, il y a 17 ans auprès du gouvernement. Et j'ai profité pour mettre des passages dedans pour aider les personnes à se référer à des institutions, à des droits qu'ils ont, quoi, hein, tout simplement. Mais j'ai voulu sortir un petit peu de ce monde de l'handicap froid et tout ça. Et j'ai voulu faire un petit livre d'accompagnement qui n'est pas vraiment un livre. C'est quelque chose qu'on pose sur sa table de nuit. C'est un livre qu'on peut offrir à n'importe quel moment, fête des pères, fête des mères. Il y a des dictons dedans, des dictons d'encouragement. Et c'est un livre, il faut quand même que je le dise, que j'ai écrit en même pas une semaine. Okay. Et je l'ai écrit dans des conditions lamentables qui étaient la réanimation de l'hôpital de Wissembourg où j'étais entre la vie et la mort. Quand au bout du troisième jour, le réanimateur a vu que je ne partais pas, il m'a dit « Bon, je vois que tu ne veux pas mourir, alors je t'amène ton ordinateur. » Et c'était vraiment ça. Même dans les moments de désespoir, j'ai voulu travailler et ce livre semblerait-il qu'il en émane quelque chose de très positif. Donc pour moi, le livre s'appelle « Un mot pour un mal ». Et donc j'ai écrit 2-3 livres de poésie qui sont tout à fait classiques, mais il y a peut-être un livre que je vais vous présenter qui a pris de l'ampleur dans ma vie.
Un mot M-O-T pour un mal M-A-L.
Oui.
Et quel est l'autre livre que vous souhaiteriez présenter ?
Nous avons parlé tout à l'heure de ce petit oiseau de toutes les couleurs. Il y a quelques années, j'avais Pirate. Pirate était un petit omnicolore que tous les enfants de la région connaissent puisque je faisais des expositions de livres. Mmh. Et j'ai voulu écrire un livre pour montrer la foi sans... taper dans la tête des gens une religion. Et pour moi, le but, c'était, si j'écris ce livre pour les enfants, il faut forcément que papa, maman ou les grands-parents le lisent, ou tati. Et donc, de par là, ils vont être forcément connectés un tout petit peu à la foi. Ça va faire quelques petites vibrations dans leur vie. Ça peut apporter quelque chose, mais en tout cas, ça n'écrase pas au niveau religieux. Mmh. Et donc, ce livre s'appelle « Le petit pirate », l'histoire d'un petit oiseau qui a été trouvé, qui a été soigné et qui, après cela, le fait d'avoir été pris en charge par un petit garçon, le petit garçon a simplement découvert qui était cette petite masse informe qu'il avait emmenée à la maison, un petit peu comme nous, quand on accepte quelqu'un qui est simplement différent. On découvre ensuite les trésors. Ensuite, j'ai écrit le deuxième parce que ce petit oiseau, forcément, il fallait qu'il trouve une famille. Donc, je l'ai fait adopter par la famille humaine. Et le livre s'appelle « Émile et Pirate ». Et c'est donc l'adoption de l'enfant qui passe par l'oiseau en toute douceur. Et il a fallu que ce petit oiseau, bien sûr, il faut qu'il progresse dans la vie. Et donc Noël est arrivé dans cette famille et j'ai voulu raconter toute l'histoire que ce petit oiseau découvre. L'histoire de la crèche, l'histoire de Marie et Joseph, pourquoi le Seigneur est venu, sans, comme dit, sans marteler vraiment la religion. Mais ça ne m'a toujours pas suffi. Comme si j'avais trop d'énergie, il a fallu que je fasse un calendrier de l'Avent pour ses enfants. Et ce calendrier de l'Avent se présente sous 24 jours avec trois coloriages, gribouillage, dessin, bricolage, découpage. Trois par jour, donc trois enfants différents. Si vous avez trois enfants dans une famille, vous pouvez acheter qu'un seul calendrier. Et ça du 1er au 24, pardon. Et le dernier livre que je présente et qui est en travail et qui sera fait prochainement, c'est raconter la mort de l'enfant en passant toute douceur par l'oiseau, puisqu'entre-temps nous avons perdu Pirate. Et Merlin est venu dans notre monde, dans notre foyer. Merlin est une petite perruche royale qui est adorable. Et donc je voudrais dire aux parents, aux amis, aux enfants, que la mort, ce n'est pas une fin, mais que c'est le début d'une autre vie, tout simplement.
Je me permets une petite anecdote par rapport à Merlin que nous avons vu tout à l'heure et qui se faisait entendre parce qu'il ne m'avait pas vu. Vous l'avez amené ici devant nous et puis en fait, vous lui avez simplement parlé et il s'est incroyablement tu pendant toute l'interview, on ne l'a pas entendu une seule fois, et vous lui avez dit justement d'être gentil.
Eh oui, c'est sûrement le seul dans la maison qui m'obéit.
Vous êtes un peu dur quand même. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage, pour votre temps aussi. Si, supposons, j'entends cette interview à la radio, je veux me procurer un de vos ouvrages, comment est-ce que je peux faire ?
Alors, je pense qu'on peut directement venir chez moi, sur rendez-vous de préférence, justement parce que l'handicap est très lourd et que je me fatigue très vite. Et vous pouvez aussi me trouver, je pense, qu'aux alentours de Noël, je vais essayer du moins de refaire un petit peu des expositions à droite et à gauche dans les communes.
Merci beaucoup Sonia Rupp, et je vous souhaite une très très bonne continuation dans votre quotidien, avec votre foi, et puis votre entourage qui me semble bien riche.
Merci beaucoup Thierry, merci à Radio Phare, et que le Seigneur vous bénisse tous richement, et que vous puissiez avoir cette joie de vivre que j'éprouve tous les jours, mais pour ça, croyez-moi, même si vous ne prenez Dieu qu'en perfusion, mais prenez-le et vous allez voir un jour vous serez dépendant.